16h50, de retour en studio. Raphaël, le président Trump va devoir affronter un procès au Sénat. Hein. C'est le procès en destitution. On pense bien qu'il va pouvoir s'en tirer parce que le Sénat est dominé par son parti, le Parti républicain. Mais aujourd'hui, il a dévoilé son équipe de défense et ce sont des personnages controversés.
Très controversés, à commencer par le premier, Kenneth Starr. Tu as suivi la présidence Clinton de près, tu t'en rappelles. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Kenneth Starr, évidemment?
Ben, c'est le procureur spécial qui a fouillé dans ses bobettes pour essayer de trouver quelque chose, puis a fini par trouver quelque chose.
Et quand tu dis bobette, c'est pas une image, c'est littéralement ça. C'est un petit peu l'équivalent, en fait, de Robert Mueller par rapport à Donald Trump. Donc, c'est le procureur spécial qui a été chargé d'enquêter sur le président. Sauf que dans le cas de Kenneth Starr, je te dirais peut-être la différence de M. Mueller, c'est qu'on l'a vraiment dépeint très lourdement dans les années 90, pendant que Bill Clinton était président, comme un acteur politique, comme quelqu'un qui avait vraiment une rancœur partisane, qui était obsédé par l'objectif de détruire la présidence de Bill Clinton. Et donc, de le voir ramené à l'avant-plan comme avocat de la défense pour Donald Trump,
mais,
c'est remarquable.
On va juste préciser quelque chose. Kenneth Starr, Raphaël, a commencé son travail en enquêtant sur le scandale de Whitewater, qui était un scandale immobilier en Arkansas de l'époque où Clinton habitait l'Arkansas. Il y a bien des gens qui ont soupçonné qu'il y avait des malversations. Clinton n'a jamais été trouvé coupable de quoi que ce soit dans cette affaire-là. Et là, avec ses procureurs, avec ses pouvoirs de procureur spécial, il s'est mis à fouiller dans des affaires contemporaines. Et il a fini par trouver l'histoire de cette relation avec Monica Lewinsky.
Oui, et ça s'est étiré sur des années. Donc, pour ceux qui ont trouvé que, justement, l'enquête Mueller, éternisée, bien, ça avait duré 2 ans. Kenneth Starr a mené une enquête, écoute bien ça, qui a duré la majorité de la présidence Clinton. Et Bill Clinton a fait 2 mandats, c'est 8 ans, ça. Donc, pour la majorité des 8 ans à la Maison-Blanche de Bill Clinton, tu as eu l'enquête de Kenneth Starr. Donc, c'était très politique. Et maintenant, il est l'avocat de la défense de Trump.
Donc, c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans comme un symbole. Et l'autre, l'autre personnage, c'est Alan Dershowitz, qui est un avocat criminaliste de New York.
Exact.
Qui était très proche de Jeffrey Epstein.
Et c'est pour ça que lui est particulièrement controversé. Il était plus que proche. Il était son avocat. Il faisait partie de l'équipe de défense de Jeffrey Epstein. À l'époque où Epstein a reçu un espèce de deal absolument impossible à justifier, dans lequel, même si clairement il était coupable de trafic sexuel de mineurs, il s'en était sorti avec une peine, disons-le franchement, complètement risible. Donc, quand tu combines le fait que tu as Dershowitz, maintenant, qui est l'avocat de Trump, le fait que le secrétaire, l'ancien secrétaire au travail du président, était également impliqué dans l'espèce de deal très spécial qu'avait eu Jeffrey Epstein, et également le fait que Donald Trump lui-même a été photographié avec Jeffrey Epstein, disons que la nomination de M. Dershowitz fait réagir pour des raisons évidentes.
Oui, donc ce sont deux personnages hautement polarisants. Absolument. Et qui sont un peu à l'image du président. Parfait. Écoute, évidemment, la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de parler de ça, de ce procès en destitution au Sénat. Tu veux finir la semaine avec deux histoires très particulières qui nous viennent du Michigan.
Très particulières. Ça fait depuis la semaine dernière que je veux t'en parler. Là, j'avise tout le monde, les oreilles sensibles peut-être s'abstenir pour la prochaine minute. Parce que... La première histoire, écoute, va te faire frissonner. Si je te nomme le nom de Luca Magnotta,
bien sûr,
que tu vas t'en souvenir.
Au Québec, on le connaît bien.
On le connaît un petit peu trop bien. Mais je dirais que le Michigan a peut-être trouvé son pendant, qui s'appelle Mark Letonski, un homme de 50 ans. Écoute ça comme histoire. J'en ai pas entendu beaucoup d'histoires comme ça dans ma vie. Il aurait donné rendez-vous à un jeune homme de 25 ans, juste avant Noël, dans une petite ville au nord de Détroit. Et la famille du jeune de 25 ans en question a commencé à se poser des questions le matin de Noël alors qu'il manquait à l'appel. Donc, ils ont lancé des recherches et on l'a retrouvé éventuellement dans le sous-sol de ce type-là, M. Letonski, l'homme de 50 ans, pendu par ses deux pieds, mort. Et il lui manquait une chose, ses testicules, qui auraient été mangés carrément par l'homme de 50 ans. Les trois choses remarquables dans cette histoire-là, comme si elle n'était pas déjà assez, le nom de la victime, Kevin Bacon, comme l'acteur. Et l'acteur, Kevin Bacon, s'est senti le besoin d'intervenir sur la place publique pour essentiellement essayer de réconforter la famille. Deuxième chose, quelques semaines auparavant, il y avait un autre jeune homme qui avait été aperçu en train de se sauver de la demeure de ce type-là, de M. Letonski, se sauvant complètement nu, à l'exception d'une chose qu'il portait, un kilt en cuir. Il avait le visage ensanglanté. Il n'y a jamais eu d'accusations qui ont été portées. Et troisième punch de l'histoire, si on peut appeler ça ainsi, comment s'était-il rencontré sur une application appelée Grindr, qui en français, quand on l'a traduit, veut dire quoi? Hachoir.
Mmh. Qui est une application, je ne me trompe pas, là, de rencontre pour les homosexuels.
Exactement, mais dans le contexte, écoute, c'est absolument déroutant. Mmh. Donc, au Michigan, c'est, je te dirais, l'affaire criminelle de la décennie.
Et puis ton autre histoire, es-tu un peu plus ragoûtant?
Non, au contraire, je te dis, les États-Unis, c'est toujours ça, c'est le meilleur et le pire. J'ai commencé avec le pire, je finis avec le meilleur. La ville de Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan, avait la tenue d'un conseil municipal, de son conseil municipal il y a quelques jours, et pour absolument aucune raison qu'on puisse comprendre, à un certain moment, on a suspendu la rencontre du conseil pour faire quoi? Une danse en ligne avec les conseillers municipaux qui sont levés, qui ont commencé à danser.
C'est plus ragoûtant.
Ça ne se fait plus ragoûtant. On écoute quand même un petit peu à quoi ça ressemblait.
En plein conseil municipal.
En plein conseil municipal. Donc, je ne sais pas, c'est pour quand... tous les gens sont dans la nature. Je ne sais pas si c'est pour quand qu'on va voir ça à l'hôtel municipal de Montréal, mais on a eu ça à l'hôtel municipal de Grand Rapids. Écoute, je ne peux pas faire autrement que faire un minimum d'autopromotion, parce qu'aujourd'hui, la publication, c'est le jour de publication de mon livre. Je sais qu'on va s'en parler la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui ont un petit peu de temps libre, tu recevais Guy Lepage tantôt, dimanche soir, je suis à Tout le monde en parle avec Thomas Junot. Je le mentionne parce que c'est un type qui est extrêmement intéressant lorsqu'il est question du Moyen-Orient, de géopolitique dans cette région-là du monde. Donc, on va être là pour parler de la situation entre l'Iran et les États-Unis.
Oui, on va te recevoir la semaine prochaine. On va trouver un moment pour que tu viennes nous parler de ton livre. C'est quoi le titre?
Révolution Trump. La préface est écrite par un certain Paul Hood.
Ah, c'est Paul qui l'a écrite? Ah, Paul formidable. OK, parfait. Bon, mais écoute, on te reparle lundi, puis on se trouve un moment pour parler de cet ouvrage-là. Je pense que Trump, c'est toujours un sujet très intéressant. Quand même un peu mystérieux.
Encore à ce jour.
Merci. Bon week-end, Raphaël. Et au cours de la prochaine heure, Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, Les Accros et Dr. Martin Junot.